Apprentissage collectif et perspectives futures sur l'impôt sur la propriété. Tout laisse à penser que cette longue histoire est loin d'être terminée. Le système en place est le fruit de processus sociopolitiques dépendant avant tout des rapports de forces politico-idéologiques et des capacités de mobilisation des uns et des autres, et il continuera d'évoluer de la même façon. Surtout, la très forte montée des inégalités patrimoniales aux États-Unis au cours de la période 1980-2020, conjuguée avec la médiocre croissance, a créé les conditions d'une remise en cause du tournant idéologique des années 1980-1990. Depuis le milieu des années 2010, on voit de plus en plus fréquemment des responsables du Parti démocrate évoquer le retour à des taux de l'ordre de 70-80% applicables aux plus hauts revenus et patrimoines hérités. Cela vaut notamment pour Bernie Sanders, battu sur le fil par Hillary Clinton lors de la primaire démocrate de 2016, et qui a proposé un taux de 77% pour les plus hautes successions, au-delà de 1 milliard de dollars. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020, certains candidats démocrates ont mis en avant la création, pour la première fois aux États-Unis, d'un impôt fédéral sur la fortune. Par exemple, avec un taux de 2% pour les patrimoines compris entre 50 millions et 1 milliard de dollars, et de 3% au-delà de 1 milliard de dollars, suivant la proposition faite par Elizabeth Warren, début 2019. La proposition concerne les personnes dont le patrimoine est plus de 100 fois plus élevé que la moyenne, environ 500 000 dollars par couple et 250 000 dollars par adulte, soit moins de 0,1% de la population, mais 20% du patrimoine total, d'où des recettes substantielles estimées à plus de 1% du revenu national. Le projet s'accompagne également d'une « exit tax » égale à 40% du patrimoine pour ceux qui choisiraient de quitter le pays et d'abandonner la citoyenneté états-unienne. La taxe s'appliquerait à tous les actifs, sans aucune exemption, avec des sanctions dissuasives pour les personnes et les gouvernements qui ne transmettraient pas les informations adéquates sur les actifs détenus à l'étranger. Il est impossible de dire à ce stade si, quand et sous quelle forme ce type de débat aboutira. Le taux de 3% applicable au-delà de 1 milliard de dollars indique une volonté claire de circulation de la fortune. Ce taux implique par exemple qu'un patrimoine statique de 100 milliards retourne à la communauté en quelques décennies. Autrement dit, les plus fortes détentions patrimoniales deviennent une réalité temporaire. Compte tenu de la progression moyenne observée sur les plus hauts patrimoines financiers, on peut toutefois considérer qu'il faudrait appliquer des taux plus élevés aux détentions les plus importantes, au moins 5-10% par an, voire plusieurs dizaines de pourcents pour les multimilliardaires, de façon à favoriser un renouvellement rapide de la fortune et des positions de pouvoir. On peut aussi penser qu'il serait préférable de faire le lien entre ce barème applicable aux très hautes fortunes et la nécessaire refondation de la property tax, avec à la clé la possibilité de réduire cette dernière pour les personnes endettées et tentant d'accéder à la propriété. En tout état de cause, ces débats sont loin d'être achevés, et leur issue dépendra notamment de la capacité des acteurs à articuler les évolutions récentes avec la mobilisation des expériences antérieures. On constate dans les autres pays le même besoin de remise en perspective historique des débats en cours. En France comme aux États-Unis, de multiples débats ont eu lieu à la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle pour mettre en place un véritable impôt progressif sur la propriété. Des projets avaient été débattus dès avant la Première Guerre mondiale, en particulier au début de l'année 1914. Mais dans l'urgence de l'été 1914, et face aux craintes et résistances idéologiques suscitées par l'imposition annuelle progressive du patrimoine, le Sénat décida d'adopter uniquement l'impôt général sur le revenu. Dans les années 1920, les discussions au sein du cartel des gauches n'aboutirent pas à la fois car les radicaux ne voulaient pas inquiéter les petits propriétaires, mais aussi parce que les socialistes étaient davantage intéressés par la question des nationalisations que par les projets fiscaux. Il s'agit d'ailleurs là d'un des freins qui ont limité les avancées des mouvements sociaux-démocrates et socialistes sur l'impôt progressif sur la propriété. Le projet était souvent considéré comme trop effrayant par les partis du centre et insuffisamment mobilisateur pour les forces les plus à gauche, attachées à l'objectif de propriété étatique des moyens de production. En 1936, dans le contexte du Front populaire, les communistes prenaient à cœur de participer à la coalition au pouvoir et ils défendaient un impôt progressif sur le patrimoine avec des taux allant de 5% à partir de 1 million de francs à 25% au-delà de 50 millions, respectivement 10 et 500 fois le patrimoine moyen de l'époque. Mais la majorité parlementaire reposait sur les radicaux qui refusèrent de voter cette proposition dans laquelle ils voyaient le cheval de Troie de la révolution socialiste. De multiples autres propositions furent diffusées par la suite, en particulier par la CGT en 1947 et par les députés socialistes et communistes en 1972. C'est finalement à la suite des élections de 1981 qu'un impôt sur les grandes fortunes, IGF, fut adopté par la majorité socialiste-communiste, puis aboli par la majorité gaulliste-libérale en 1986, puis rétabli sous la forme de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, à la suite des élections de 1988. Nous reviendrons dans la suite de cette enquête sur la façon dont le gouvernement issu des élections de 2017 s'est lancé en 2018 dans le remplacement de l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière, IFI, avec à la clé une exonération complète des placements financiers et donc de la quasi-totalité des plus hauts patrimoines. À ce stade, précisons simplement que les oppositions très vives suscitées par cette réforme suggèrent que cette longue histoire va se poursuivre. Par ailleurs, il faut garder présent à l'esprit que l'IGF, puis l'ISF appliqué en 1982-1986, puis 1989-2017, ont toujours concerné un nombre limité de contribuables, moins de 1% de la population, avec des taux réduits s'échelonnant généralement de 0,2 à 1,52%, et surtout de très nombreuses exonérations, si bien que la taxe foncière, irréformée dans ses grandes lignes depuis les années 1790, n'a jamais cessé d'être le premier impôt sur le patrimoine. À la veille de la réforme de 2018, l'ISF rapportait environ 5 milliards d'euros, moins de 0,3% du revenu national, contre 40 milliards d'euros pour la taxe foncière, plus de 2% du revenu national. Trajectoire croisée et redécouverte de l'impôt sur la propriété. Au Royaume-Uni, un impôt progressif sur le patrimoine n'était pas loin d'être adopté par les gouvernements travaillistes de Wilson puis Callaghan en 1974-1976. Sous l'impulsion notamment de Nicholas Kaldor, les travaillistes avaient en effet été amenés à conclure au cours des années 1950 et 1960 que le système fiscal à base d'impôts progressifs sur les revenus et les successions devait être complété par un impôt annuel et progressif sur la propriété, à la fois pour des raisons de justice et d'efficacité. En particulier, cela leur semblait la seule façon de mieux connaître les patrimoines et leur évolution en temps réel, et de lutter ainsi contre le contournement de l'impôt successoral via des trusts et d'autres structures similaires. Leur programme envisageait avant les élections victorieuses de 1974 un impôt progressif avec un taux atteignant 5% sur les plus hauts patrimoines. Outre l'hostilité du Trésor, le projet se heurta toutefois aux conséquences du choc pétrolier et de la crise inflationniste et monétaire frappant le Royaume-Uni en 1974-1976, avec en particulier l'intervention du FMI en 1976, et le projet fut finalement abandonné. Le Royaume-Uni fait ainsi figure avec les États-Unis du pays qui a atteint la plus forte progressivité fiscale concernant les revenus et les successions, mais qui n'a jamais expérimenté d'impôt annuel progressif sur le patrimoine. Signalons toutefois l'expérience récente de la Mansion Tax. Bien que le système britannique d'impôts locaux sur les logements soit particulièrement régressif, le pays a en effet la particularité d'avoir un système fortement progressif de taxation des transactions immobilières. Le taux payé lors d'une transaction est nul lorsque la propriété vaut moins de 125 000 livres sterling, 1% lorsqu'elle vaut entre 125 et 250 000 livres, puis s'élève graduellement avec la valeur du bien jusqu'à 4% au-delà de 500 000. En 2011, un nouveau taux de 5% a été créé pour les ventes de biens d'une valeur supérieure à 1 million de livres sterling, les mansions. Il est intéressant de noter que ce taux de 5%, introduit par un gouvernement travailliste, a d'abord été fortement critiqué par les conservateurs, qui, après être parvenus au pouvoir, ont introduit un taux de 7% pour les propriétés d'une valeur supérieure à 2 millions de livres. Cela montre que, dans un contexte d'inégalité croissante, et en particulier de concentration en hausse des patrimoines et de grandes difficultés d'accès à la propriété pour le plus grand nombre, le besoin de développer un système plus progressif d'imposition des patrimoines se fait sentir par-delà les affiliations politiques partisanes. Cela implique également le besoin de repenser l'ensemble du système d'imposition des patrimoines de façon cohérente. Plutôt que d'avoir des taux aussi élevés au moment des transactions, il serait plus juste et plus efficace d'appliquer un barème progressif avec des taux plus réduits sur une base annuelle, en fonction du patrimoine détenu, tout type d'actifs confondus. Mentionnons enfin le cas des pays d'Europe germanique et nordique, qui pour la plupart ont été moins loin que le Royaume-Uni et les États-Unis en termes de progressivité fiscale sur les revenus et les successions, mais qui en revanche ont complété très tôt ces deux impôts par des systèmes d'impôts progressifs annuels sur le patrimoine. Un impôt annuel et progressif sur le patrimoine global, immobilier, terrien, professionnel et financier, net de dette, fut mis en place en Prusse dès 1893, peu après l'adoption de l'impôt progressif sur le revenu en 1891, puis en Saxe en 1901, avant d'être généralisé à l'ensemble des États allemands et de devenir un impôt fédéral en 1919-1920. En Suède, l'impôt progressif sur le patrimoine fut mis en place en 1911, en même temps que la réforme de l'impôt progressif sur le revenu. Dans les autres pays d'Europe germanique et nordique, en particulier Autriche, Suisse, Norvège, Danemark, des systèmes similaires combinant impôts progressifs sur le revenu, le patrimoine et les successions furent mis en place au cours de la même période, généralement entre 1900 et 1920. Il faut toutefois souligner que ces impôts sur le patrimoine, qui concernaient en général à peine 1-2% de la population, avec des taux s'échelonnant de 0,1% à 1,5-2% et jusqu'à 3-4% en Suède dans les années 1980, ont joué un rôle sensiblement moins important que ceux pesant sur les revenus. Surtout, ces impôts ont été supprimés dans la plupart des pays concernés au cours des années 1990 et au début des années 2000, à l'exception toutefois de la Suisse et la Norvège, où ils sont encore en place, en partie pour des raisons liées à la concurrence fiscale entre pays, dans une période marquée par la libéralisation des flux de capitaux en Europe à la fin des années 1980, et au contexte idéologique consécutif à la révolution conservatrice anglo-saxonne et à la chute de l'Union soviétique. Au-delà de ces facteurs bien connus, il faut également souligner l'importance décisive et instructive jouée par des erreurs de conception initiale. Conçus avant la Première Guerre mondiale, dans un contexte d'étalon or où l'inflation était inconnue, ces impôts germaniques et nordiques sur le patrimoine étaient en effet pour la plupart assis non pas sur les valeurs de marché des différents actifs immobiliers et financiers imposés, le cas échéant avec une indexation du barème permettant d'éviter les trop fortes hausses ou baisses de l'impôt demandé, mais sur des valeurs cadastrales, c'est-à-dire des valeurs enregistrées périodiquement, par exemple tous les 10 ans, lors des recensements généraux des propriétés. Le problème est qu'un tel système, viable par temps d'inflation nulle ou faible, a été rapidement rendu obsolète par la très forte inflation observée à la suite des guerres mondiales et pendant les décennies d'après-guerre. Ceci pose déjà de sérieux problèmes d'équité lorsqu'il s'agit d'un système d'imposition proportionnelle des patrimoines, comme la taxe foncière en France. Dans le cas d'un impôt progressif, où il s'agit notamment de savoir qui dépasse le seuil d'imposition et qui ne le dépasse pas, le fait de s'appuyer sur des valeurs qui ont été révisées plus ou moins lointainement suivant les communes ou les quartiers est intenable. C'est dans ce contexte que l'impôt sur le patrimoine a été suspendu par la Cour constitutionnelle allemande en 1997 pour rupture d'égalité devant l'impôt. Les coalitions politiques au pouvoir à Berlin depuis cette date ont jugé qu'elles avaient d'autres priorités que de reprendre cet impôt à la base pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons. Il faut enfin mentionner le rôle spécifique joué par la crise bancaire suédoise de 1991-1992 dans l'évolution politico-idéologique du pays, avec en retour des conséquences significatives dans les autres pays, compte tenu du rôle emblématique joué par la social-démocratie suédoise. La gravité extrême de la crise, où les principales banques suédoises n'étaient pas loin de faire faillite, posait principalement des questions liées à la régulation bancaire et monétaire et au rôle des flux de capitaux. Elle aboutit cependant à une remise en cause plus générale des excès supposés du modèle social et fiscal suédois et plus généralement au sentiment d'une grande fragilité du pays au sein du capitalisme financier globalisé. Les sociaux-démocrates furent pour la première fois depuis 1932 chassés du pouvoir, au profit des libéraux, qui mirent en place dès 1991 un régime dérogatoire de taxation des intérêts et dividendes et réduisirent fortement la progressivité de l'impôt progressif sur le patrimoine. Ce dernier fut finalement supprimé en 2007 par les libéraux, 2 ans après que les sociaux-démocrates avaient supprimé l'impôt sur les successions, ce qui peut surprendre, mais reflète la force de la perception de concurrence fiscale qui peut saisir un pays de la taille de la Suède en ce début de XXIe siècle, et aussi peut-être la perception que le modèle égalitaire suédois est tellement ancré qu'il n'a plus besoin de telles institutions. Il est toutefois permis de penser qu'une réorientation aussi radicale de la politique fiscale peut avoir des effets inégalitaires assez marqués à long terme et peut également contribuer à expliquer pourquoi les sociaux-démocrates suédois séduisent de plus en plus les catégories socialement favorisées et de moins en moins leur électorat populaire traditionnel. Nous reviendrons sur ces questions dans la 4e partie de ce livre, lorsque nous examinerons l'évolution de la structure des électorats et du conflit politique dans les principales démocraties parlementaires. À ce stade, plusieurs leçons peuvent être tirées. De façon générale, la social-démocratie, malgré tous ses succès, a été confrontée au cours des dernières décennies à de nombreuses limitations à la fois intellectuelles et institutionnelles, en particulier concernant les questions de la propriété sociale, de l'accès égalitaire à la formation, du dépassement de l'État-nation et de l'impôt progressif sur la propriété. S'agissant de ce dernier point, nous avons constaté une grande diversité de trajectoires et de points de bifurcation, et aussi des incohérences fortes et des partages d'expériences parfois limités, qui traduisent sans doute en partie une faible appropriation de ces questions par les mouvements politiques et les citoyens. Les évolutions les plus récentes traduisent sans nul doute de grandes hésitations. D'un côté, la montée des inégalités patrimoniales appelle naturellement au développement de nouvelles formes de progressivité fiscale. De l'autre, la perception d'une concurrence fiscale impitoyable peut justifier l'acceptation accrue du moins-disant en matière de progressivité, avec le risque d'exacerber les évolutions inégalitaires en cours. En réalité, le refus de débattre rationnellement de l'impôt progressif sur la propriété, en particulier le discours consistant à expliquer qu'il est rigoureusement impossible de mettre à contribution les plus grandes fortunes et que les classes moyennes et populaires sont condamnées à payer à leur place, constitue un choix politique extrêmement dangereux. Toute l'histoire des sociétés humaines démontre que la recherche d'une norme de justice acceptable par le plus grand nombre en matière de répartition des richesses et de la propriété se retrouve à toutes les époques et dans toutes les cultures. Cette quête de justice semble s'exprimer de plus en plus fortement à mesure que les niveaux de formation et d'information s'élèvent. Il serait bien étonnant qu'il en aille différemment au XXIe siècle et que ces débats n'y jouent pas un rôle central, surtout dans un contexte d'accroissement tendanciel de la concentration des patrimoines. Pour s'y préparer, mieux vaut commencer par prendre la mesure des expériences et des débats du passé pour mieux les dépasser. Si on le refuse, on s'expose à contribuer au désenchantement face à tout programme ambitieux de solidarité fiscale et sociale et à la montée des replis sociaux et identitaires.